السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Et bien sûr, il faut mettre à la bonne attention par recherche de l'agrément de Dieu. Donc, nous avions parlé des règles d'interprétation du Coran et des hadiths aussi. Donc c'est un sujet très important. Et on a détaillé plusieurs choses. Déjà, on a montré le verset du Coran qui nous montre bien que Dieu a révélé le Coran avec des versets explicites qui ont un seul sens dans la langue arabe. Et il a révélé des versets qui sont mutashabihat, non explicites, qui peuvent admettre linguistiquement plusieurs sens, mais ne sont retenus que les sens qui sont corrects, qui correspondent au verset explicite, pour ne pas faire de contradiction, car dans le Coran il n'y a pas de contradiction. Et que ceci est une épreuve de la part de Dieu, car certains gens y s'égarent en donnant une mauvaise interprétation au verset explicite, au verset non explicite. Et Dieu nous a mis en garde contre ces gens-là. Et beaucoup de sectes sont venues de cela. Ils ont mal interprété les versets mutashabihat, non explicites. Et justement, comme ceux qui assiment Dieu à ses créatures, ils ont attribué à Dieu ce qui n'est pas digne de lui. Ils ont attribué à Dieu la forme, la quantité, la localisation, et c'est ce qu'on appelle du shirk. C'est un blasphème. Ça contredit la croyance musulmane conforme au verset « Laïsa kamithli shay », c'est-à-dire « Rien n'est tel que lui ». Donc Dieu n'est pas attribué de forme, ni de quantité, ni de localisation. Il existe avant les créatures, avant l'espace, le temps, et il ne ressemble pas à ses créatures. Rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc on a donné beaucoup de preuves, donc il faut, ceux qui n'ont pas écouté, il faut écouter les deux précédents cours et tous les autres cours, bien sûr. Donc des grands savants de l'islam, donc très connus, donc dans le monde musulman, avec plein d'exemples. Et notamment, à la fin, on a parlé, donc déjà, on a montré Ar-Rahman ala l'arsh istawa, ça veut dire Dieu domine le trône. On ne dit pas s'établit ou s'assoit. Et à la fin, on a vu la dernière fois sur le hadith Yanzilu Rabbuna, c'est-à-dire ici c'est une figure de style qui veut dire l'ange de Dieu descend ou la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est expliqué dans Sahih Muslim. Et l'interprétation de Sahih Muslim par l'imam al-Nawawi et le commentaire de Sahih al-Bukhari par Ibn Hajar al-Asqalani. Donc on a vu ça. Et on a vu un grand savant, le président des juges, Shafi'i, en Égypte à son époque, Badruddin ibn Jama'a, il réplique à ceux qui attribuent à Dieu le déplacement. Il montre leur aberration. Donc on l'a vu ici. Donc ça, c'est bien sûr, ces sujets, il n'y a pas d'excuse. On l'a dit plusieurs fois, contredire la raison dans la croyance, il n'y a pas d'excuse, parce que Dieu t'a donné la raison. Et dans l'islam, tu es jugé à partir du moment que tu as la raison. Parmi les conditions pour être jugé, on l'a vu, à revoir aussi la personne responsable, le cours, puber, saint d'esprit, donc ayant la raison, donc, et ayant entendu la base de l'appel à l'islam. Attribuer à Dieu les organes, la quantité, la forme, la localisation, le changement, l'oubli, ça c'est un blasphème. Il n'y a pas d'excuse. Donc quelqu'un qui a lu une mauvaise traduction, il y en a beaucoup des mauvaises traductions, ou il a été induit en erreur par quelqu'un, il n'y a pas d'excuse. Donc ça, c'est un sujet important du fait que aussi c'est propagé les mauvaises traductions sur Internet. Donc les gens ils se copient-collent l'erreur et se propagent rapidement. Donc ils attribuent à Dieu l'humeur, le changement, etc. Donc on n'attribue pas à Dieu la colère. Donc on verra l'interprétation de Sourate Al-Fatiha aussi parmi les interprétations qu'on va voir. Donc c'est l'occasion aussi de voir l'exégèse du Coran qui a beaucoup de bien là-dedans. Et par cette même occasion, on voit les règles de la langue arabe, certaines règles. Donc c'est la langue arabe est riche. Comme en français, il y a des figures de style, en arabe aussi. Et encore plus riche. C'est la langue la plus riche, c'est la meilleure langue. La langue arabe, c'est la langue des gens du paradis. Donc, on arrivait ici, en fait. L'imam Ahmad, donc voilà, ce dont, donc on va reprendre ici. Donc le calife bien guidé, l'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'honore, a dit, Dieu existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Donc Dieu, parce que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. C'est-à-dire, Dieu existe de toute éternité, et il n'y a pas d'autre que lui de toute éternité. Donc ça, c'est une règle importante qu'il a donnée le prophète alayhi salatu wasalam. Seul Dieu n'a pas de début, et toutes les créatures ont un début. Et ça, on l'a montré donc dans les preuves que l'islam est l'unique religion valable. Donc il y a un cours sur ça. Et la raison n'accepte que ça, que cela. Que toutes ces créatures ont un début, et celui qui leur a donné le début, lui, existe par lui-même, n'a pas de début. La raison n'accepte que cela. Rationnellement, il n'y a que le créateur qui n'a pas de début, qui ne dépend pas du temps, et toutes les créatures ont un début. Et c'est Dieu qui leur a donné le début. Donc de là, de cette parole, l'imam Ali, il a dit, Dieu existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. L'endroit est créé par Dieu. Donc voilà la réponse simple, on a dit, pour répliquer à ces gens-là, parce que les gens du livre, les wahhabis, le secte wahhabis, qui sont appelés salafites, donc à tort, c'est la réplique, elle est simple. On leur dit, qui a créé l'espace? Qui a créé l'endroit? Qui a créé le trône? Qui a créé le ciel? Ils sont obligés de dire c'est Dieu. Donc on leur dit, Dieu existe avant ces choses-là, sans ces choses-là. Il existe avant l'espace, sans l'espace, sans l'endroit. Et après qu'il a créé ces créatures, il ne change pas. Comme on dit dans les pays musulmans, Subhana alladhi yughayyir wa la yataghayyir. Dieu existe de toute éternité. Donc il dit, donc la parole, elle veut dire, Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc sa parole, alors Dieu existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité, il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Donc ce dont on tient compte dans la croyance n'est pas basé sur les illusions, mais sur la raison saine, qui est témoin de la religion. Donc ça, c'est important de revoir, c'est l'habitude des savants. Ils prennent le cours plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit bien acquis, on retient les expressions, ça soit fluide, on peut le ressortir, donc le transmettre à d'autres. Il y a beaucoup de récompenses en cela. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, La yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'u hatta yakuna muntahahu al-jannah. Le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. Donc, ce dont on retient compte, ce dont on tient compte dans la croyance n'est pas basé sur les illusions, mais sur la raison saine qui est témoin de la religion. Car si Allah était dans un endroit, il aurait des limites, des extrémités, des fins. Et celui qui est ainsi a forcément une existence précédée du néant. C'est-à-dire qu'il est créé, il n'est donc pas Dieu. Comme il a été validé que Allah existe sans endroit avant la création des endroits et des directions, il est validé qu'il existe après les avoir créés sans endroit. Et ceci ne constitue pas une négation de l'existence de Allah Ta'ala. L'imam Ahmad ibn Hanbal, donc c'est le grand savant de l'école Hanbalite, fondateur de l'école Hanbalite. Donc bien sûr, l'imam Ahmad est innocent de ce que disent les assimilateurs qui se réclament de lui. Parce que les extrémistes, ils se réclament de l'école Hanbalite, mais lui, il est innocent de cela, bien sûr. Car les quatre écoles, déjà tous les prophètes, ils ont la même croyance. Qu'est-ce qui change entre les prophètes? C'est la jurisprudence entre les prophètes messagers. Et entre les quatre écoles, qu'est-ce qui change? C'est certains sujets de jurisprudence, ils divergent, ce qui n'est pas cité explicitement dans un verset ou un texte confirmé, hadith. Donc lui-même, Ahmad, il est sunnite, bien sûr. Et il dit clairement que celui qui dit que Dieu est un corps, pas comme les corps, il est mécréant. Man qala Allahu jismun lakal ajsami fa huwa kafir. Il dit comme ça l'imam Ahmad. Rapporté par al-Bayhaqi dans le livre Manaqib Ahmad. C'est un livre dans lequel il cite la biographie en quelque sorte de l'imam Ahmad. Et ce qu'il a dit, etc. Donc l'imam Ahmad et Dhunnun al-Masri et tous les savants de l'islam sunnite, ils disent la même chose. Mais il est rapporté de ces deux-là, donc textuellement, donc l'imam Dhunnun al-Masri, c'est un élève de l'imam Malik. Donc ils ont dit, مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Tout ce que tu imagines est créé par Dieu. Donc, quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Rapporté par le Hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Tarikh Baghdad, avec une chaîne de transmission remontant jusqu'à Dhunnun al-Masri. Et rapporté aussi par Abu al-Fadl al-Tamimi al-Hanbali dans son livre I'tiqad al-Imam Ahmad. Ainsi, il est impossible d'imaginer le Créateur car il ne ressemble pas aux créatures. Donc vous voyez, la religion, on l'apprend par transmission. Ce trésor-là de croyance, ça vient avec chaîne de transmission. C'est cette chaîne de transmission auprès des gens de confiance qui va garantir la validité, la fiabilité de l'information. Donc c'est pas on ramasse à droite à gauche sur Internet comme beaucoup y font de nos jours. Allez, ils font des groupes. Allez, j'envoie tout ce que je trouve parle de l'islam. Allez. Donc il faut des choses fiables. Donc, quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Donc, on rappelle une chose à retenir. On a dit qu'il était enseigné, j'avais parlé du livre que j'ai toujours là sur le bureau, enseigné aux écoles primaires, ces points de croyance que je viens d'expliquer, il n'y a pas très longtemps. L'enseignement a été arrêté par les colonisateurs, je le rappelle. Donc j'ai un exemple, c'est un livre en Tunisie. Et c'était dans tout le Maghreb, c'était le même enseignement. Et dans les autres pays aussi, il y a des livres, j'ai vu des scans du livre, de livres qui étaient enseignés au Moyen-Orient. C'est la même chose. Dans tous les pays musulmans, c'était on enseignait aux enfants la croyance en Dieu. Les attributs de Dieu, les attributs des prophètes. Et ils enseignaient une chose, connaître Dieu. Dans ce livre-là, enseigné aux débutants, ils disent connaître Dieu, c'est connaître ce qui est obligatoire à son sujet, les attributs de perfection, la puissance, la volonté, la science, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, l'exempter du fils, de l'associé, de l'endroit, de la quantité, de la faiblesse, et connaître ce qui est possible à son sujet. Comme créer une chose ou ne pas la créer. Accorder la guidée à celui-là ou égarer celui-là. Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Accorder la richesse matérielle à celui-là ou à celui-là. Et comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Dieu accorde le bien mondain, la richesse matérielle à celui qui l'agrée, à celui qui n'agrée pas. Il accorde aux musulmans les richesses matérielles ou aux mécréants aussi. Mais n'accorde la foi que à celui qui l'agrée. C'est-à-dire, le signe que Dieu agrée une personne, c'est qu'il lui accorde la foi, il guide la personne vers l'islam. Donc voilà, ça à retenir. Donc il y a des choses qu'on répète pour que ça soit retenu. Si on dit c'est quoi connaître Dieu, on ne connaît pas, on l'a dit. On ne connaît pas la réalité de Dieu. Seul Dieu sait sa réalité, comme il a dit Abu Bakr, As-Siddiq, reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance. Quand tu reconnais que tu es incapable d'atteindre la réalité de Dieu, qu'il a les attributs de perfection, c'est ça la foi. Et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance. Et c'est dit dans le Coran, Wala yuhituna bihi ilma. C'est-à-dire, les créatures ne cernent pas la réalité de Dieu. Donc, connaître la réalité de Dieu, c'est connaître ce qui est obligatoire, impossible et possible à son sujet. Voilà, pour faire rapide, ce qui est obligatoire, impossible et possible à son sujet. Pour détailler un peu plus, ce qui est obligatoire à son sujet, les attributs de perfection. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est unique, il n'a pas d'associé, il sait tout, il parle sans langue ni lèvres, il n'a besoin de rien. Etc. Et ne change pas, etc. L'exempté, l'impossible à son sujet, l'endroit, l'espace, le temps, le début, le changement, la faiblesse, la quantité. Et ce qui est possible à son sujet, créer une chose ou ne pas la créer, comme ils ont dit les savants. Donc un traité, enseigné dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb, il y avait Ibn Asher, j'en ai parlé. Et au Moyen-Orient, ils ont un autre traité qui s'appelle Matn az-Zubad. Et pareil, c'est pour les débutants. Et parmi les phrases qu'il dit, ça on l'avait vu au début, donc on en a parlé, et parmi les phrases qu'il dit, c'est-à-dire Dieu a créé le monde, il n'en a pas besoin, mais s'il voulait, il ne l'aurait pas créé. Donc ça montre ce qui est possible à son sujet, créer une chose ou ne pas la créer. Si Dieu voulait, il n'aurait pas créé le monde. Il l'a créé, il n'en a pas besoin, et s'il voulait, il ne l'aurait pas créé. C'est ça là. Donc il fait 1000 vers en fait. Il parle de la croyance, etc. Voilà. Donc on va continuer avec certains exemples de textes qui ne sont pas qui sont équivoques. Et qu'il faut qu'il soit interprété correctement. Donc, comme on a dit, c'est une épreuve de la part de Dieu. Donc, c'est une épreuve que Dieu a fait qu'il y a des textes non explicites. Certains, ils font l'effort requis dans la religion et ils sont récompensés pour leur donner un sens correct. Et certains, ils ne font pas l'effort, ils suivent leur passion. Et ils attribuent à Dieu ce qui n'est pas digne de lui et s'égarent. Donc parmi ces hadiths-là, donc quant au hadith de Zayn bint Jahsh, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait, parmi les épouses du prophète, Zayn bint Jahsh, donc elle a dit une phrase qui est interprétée correctement par les savants sunnites, bien sûr. Donc elle a dit Zawajakun ahalikunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawat. Qui signifie ô femmes, ce sont vos familles qui vous ont mariées, alors que moi c'est Allah qui m'a marié. Mon mariage était inscrit au-dessus des 7 cieux. Donc bien sûr on traduit le sens. On traduit pas le mot à mot comme ils font des gens ignorants. Et je donnais un exemple très simple. En français, on dit je te donne un coup de main. En arabe, si tu traduis mot à mot, il va comprendre le mauvais sens. Donc, ceci signifie que le mariage du prophète avec elle est inscrit dans la table préservée de façon spécifique, à savoir sans témoin ni tuteur, la table préservée étant au-dessus des sept cieux. Donc, on cite des grands savants. Al-Hafidh ibn Hajar, qu'on appelle l'émir des croyants dans le hadith. Il a le livre le plus connu dans l'interprétation, enfin l'explication de Sahih al-Bukhari. Fath al-Bari a dit dans Fath al-Bari, ce livre-là, Al-Karmani a dit, il rapporte d'un savant, sa parole, fils Sama, le sens apparent n'est pas visé. Car Allah est exempt d'être localisé dans un endroit. Et ainsi ont répondu d'autres que lui concernant les termes de Al-Fawqiyya et ce qui est du même genre. Donc le sens apparent n'est pas visé. Donc là, c'est avec tous ces exemples-là, la personne, comme ça, elle a une culture, une vraie culture musulmane, traditionnelle, sunnite, qui était connue dans les pays musulmans, mais malheureusement, qui s'est perdu beaucoup avec ce qui s'est passé malheureusement dans les pays musulmans. De la colonisation, la fermeture des mosquées, de l'enseignement, donc au grand public. Ça, c'était enseigné au grand public. Donc maintenant, malheureusement, les savants qui enseignent ça, c'est des savants qu'il faut les trouver vraiment, il faut aller chez eux, en fait, il faut les chercher. Avant, c'était enseigné au grand public. Donc, Shihabuddin al-Qastalani, dans son commentaire, donc là aussi, c'est un commentaire de Bukhari très connu, dans son commentaire qui s'appelle Irshad al-Sari, Sharh Sahih al-Bukhari, a dit pour le commentaire de ce hadith, sa parole, Inna Allah ankahani fi sama. Il a dit, Allah est exempt des endroits et de la direction. Ce qui visait par sa parole, fils Sama, l'indication de l'imminence de Allah et de ses attributs. Et cela ne vise pas que Allah sera localisé dans le ciel. Allah est totalement exempt de cela. Donc, ça c'est connu. Comme on l'a dit, le prophète, il parlait des gens qui maîtrisaient la langue arabe et les tournures, etc. On peut faire sama pour dire l'élévation dans le degré. Jusqu'à maintenant, c'est employé. Même dans le dialecte, dans les pays arabes. An-Nasa'i a rapporté le hadith avec les termes Inna Allah Azza wa Jal ankahani min as-sama. L'imam As-Sindi a dit dans son commentaire de As-Sunan de An-Nasa'i, sa parole, ankahani minasama, c'est-à-dire que Dieu a révélé sa parole, zawajna. Donc il y a dans le verset en fait, zawajna dans sourate Al-Ahzab. C'est Zaynab, en fait, son histoire, elle est connue. Donc le prophète, Dieu a révélé qu'elle est mariée au prophète. Donc, en fait, pour montrer un jugement, en fait, pour montrer un jugement important qui est l'annulation en islam de l'adoption. Donc, son mariage, c'était dans ce cadre-là pour montrer l'annulation de l'adoption. Donc on aura l'occasion d'en parler en détail. Et c'est pour ça que c'était révélé en fait. Parce cette femme, elle était avant mariée à quelqu'un que le prophète, il avait adopté avant qu'il reçoive la révélation. Zayd, il s'appelle. Donc c'est le seul compagnon que son prénom, il est cité dans le Coran en fait d'ailleurs. le prophète, il l'a incité donc à se marier avec Zayd. Et après, ils sont pas bien entendus, etc. Et après, il s'est séparé d'elle. Et Dieu, pour montrer que l'adoption, ça compte pas en islam, il a accordé en mariage au prophète celle qui était mariée avec, entre guillemets, son fils adoptif, pour montrer que ça compte pas l'adoption. Parce que si c'est ça, parce que sinon en islam, on peut pas se marier avec l'ex de son fils. C'est interdit parce que c'est une mahram, comme l'ex de son père. Ça devient inépousable à jamais. Et pour montrer que ça compte pas, Dieu aux gens, ça compte pas du tout l'adoption. Dieu a fait, il a marié cette femme, Zainab, au prophète. Et donc, cette parole qu'elle a dite, elle, donc voilà son interprétation. C'était, comme il a dit à la fin, donc on a vu la parole de An-Nasa'i, que ça veut dire, il a expliqué, ça veut dire Dieu a révélé, tout simplement, le verset. Donc le hadith, en tout cas, il vise que sa mariage spécifique qui est cité donc dans la table réservée. Donc c'est ça qu'il visait en fait. Voilà donc pour ce hadith-là. Donc on en a vu pas mal. Et donc il y a un hadith très important aussi. À voir son explication, et là on va voir l'explication de An-Nawawi sur ce hadith-là. Donc vous pouvez le revoir donc tous dans, donc sur le site. Donc vous voyez le lien normalement. Donc vous voyez le lien normalement sur islam.ms. Alors dans son commentaire de Sahih Muslim, lors de l'explication du hadith Al-Jariya, le hadith de la femme esclave, l'imam An-Nawawi a dit. Donc c'est un hadith très connu aussi. Comme Dieu nous dit dans le Coran et le prophète nous a mis en garde contre les gens égarés qui ont un égarement dans le cœur, ils vont suivre ce qui n'est pas explicite. Ils vont citer tous les hadiths et les versets non explicites pour attribuer à Dieu la localisation. Et bien sûr, ça c'est complètement rejeté. Car attribuer à Dieu la forme, la quantité, donc c'est une aberration, c'est un blasphème. Ça contredit la croyance de l'islam, qui est la seule vraie croyance. L'islam est la seule vraie religion parce que c'est la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de forme ni de quantité. Les autres religions, ils adorent une vache, une statue, ils s'imaginent un vieillard dans le ciel, le soleil, la lune. Donc même, ils ont dit les savants pour dire une chose, si quelqu'un qui adore le soleil, il va débattre avec un wahhabi, hein, qui croit que Dieu, c'est un vieillard assis sur un trône. Celui qui adore le soleil, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, le soleil, il est joli, il est utile aux plantes, aux humains, aux animaux, il a une belle lumière. Donc le wahhabite, il va dire, suis ma religion. S'il lui dit un verset, il va pas y croire, l'autre qui adore le soleil, mais il lui dit, moi, ma religion, le wahhabite, il va dire, ma religion, c'est Dieu habite le ciel, il est assis sur un trône, il monte et descend. Celui qui adore le soleil, il va lui dire, mais pourquoi tu veux que je suive ta religion? Tu adores quelque chose qui est limité, qui est dans le ciel, on ne voit pas. Moi, j'adore une chose limitée, mais on la voit, et elle est utile aux plantes. Le wahhabite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se taire. Il n'a pas d'autre réponse. Alors, le vrai sunnite, il va dire, ou deux. Il va dire, le soleil, il a une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui ait donné cette forme, cette quantité et cette localisation. Et Wahhabite, il va dire la même chose. Celui qui habite le ciel, il a une forme, une quantité, une localisation, il est limité. Il a besoin de qui l'a limité, de qui l'a quantifié. Il dit, ma croyance, qui est la croyance de tous les prophètes, qui est la croyance de l'islam, Dieu n'a pas de forme, n'a pas de quantité, n'a pas de localisation. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Et donc, voilà la vraie croyance. Elle a des preuves. Donc, dans son commentaire du Sahih Muslim, lors de l'explication du hadith Al-Jariya, le hadith de la femme esclave, l'imam An-Nawawi a dit. Donc, il y a ici, bien sûr, l'explication, donc la parole en arabe, donc on va voir. Donc, dans son commentaire, alors il dit, au sujet de sa parole, c'est-à-dire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïn Allah, elle répondit, Fis Sama, et lui demanda, Qui suis-je? Elle répondit, Tu es le messager de Allah. Il dit alors, Libère-la, car elle est certes croyante. Il dit, Ce hadith fait partie des hadiths qui traitent des attributs de Allah. Il y a au sujet de des hadiths deux voies principales, madhhab, au sujet de la croyance, que nous avons déjà clarifié de nombreuses fois dans le livre au sujet de la foi, c'est-à-dire le chapitre de la foi dans le recueil de hadith musulmans. Donc dans le recueil de hadith de musulmans. Et l'une de ces voies est y croire sans plonger dans le détail du sens avec la croyance que rien n'est tel que Allah et la croyance qu'il est exempt de ce qui advient aux créatures. Comme on a dit, la voie des deux Les deux grandes voies des savants, c'est ou rester dans le général, dire que Dieu n'a pas de forme, n'a pas de quantité, que ce hadith ou ce verset, il a un sens digne de Dieu. Beaucoup des gens du salaf, ils faisaient comme ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sectes. Donc ils restaient dans le général. Mais des fois, ils interprétaient le détail, ils donnaient le détail. Beaucoup des gens du khalaf, ils faisaient le détail. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de sectes, il fallait montrer aux gens avec précision les différentes. Sens valable linguistiquement dans tel ou tel hadith ou tel verset. Donc la deuxième voie, c'est donner le détail selon la langue. Et il explique, la deuxième voie, c'est l'interpréter selon ce qui est digne de lui. Ceux qui ont choisi cette position ont dit, ici le sens était de la tester, afin de voir est-ce qu'elle était une monothéiste qui croit effectivement que le Seigneur, celui qui domine toutes choses, celui qui fait ce qu'il veut, c'est Allah lui seul, et qu'il est celui pour lequel ceux qui font les invocations se dirigent vers le ciel, de la même façon que celui qui prie se dirige vers la Kaaba, et ce n'est pas parce qu'il serait circoncis dans le ciel, de même qu'il n'est pas circoncis dans la direction de la Kaaba. Mais il en est ainsi, parce que le ciel est la qibla de ceux qui font des invocations, et la Kaaba est la direction de ceux qui prient, ou bien elle faisait partie des adorateurs des idoles qui adorent les statues qui se trouvent tout autour d'eux. Et lorsqu'elle a dit Fils Sama, il a été su qu'elle était une monothéiste et qu'elle ne faisait pas partie des adorateurs d'idoles. Donc il continue, tout ça c'est dans Sahih Muslim de An-Nawawi. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les savants qui ont détaillé. Ceux qui n'ont pas détaillé, ben, ils disent qu'il y a un sens digne de Dieu. Et ceux qui ont détaillé, ils ont dit que est-ce qu'elles font partie de ceux qui adorent Dieu? Et quand on l'invoque, on se dirige vers le ciel parce que c'est la direction des invocations. Et ce n'est pas parce qu'il habite le ciel. Tout comme on se dirige vers la Kaaba, et ce n'est pas la direction, et c'est la direction de la prière, et ce n'est pas parce que Dieu habite la Kaaba. Et quand on se prosterne, on se dirige vers le sol, ça ne veut pas dire que Dieu habite le sol. C'est des directions, tout simplement. Donc là, le Qadi Iyad, plus ancien que Nawawi, il est très connu, il est enterré à Marrakech. Il est très connu dans les pays musulmans avec son livre Ash-Shifa. Et dans ce livre-là, il dit que celui qui insulte Dieu, il est mécréant. celui qui se moque du prophète, il est mécréant, et celui qui il doute de sa mécréance, lui-même, il est mécréant, dans ce livre-là. Donc là, il rapporte de le Qadi Iyad. Qu'est-ce qu'il dit, le Qadi Iyad? Il dit, la khilafa bayna al-muslimina qatibatan, faqihim wa muhaddifihim wa mutakallimihim wa nuzzarihim wa muqallidihim, anna al-zawahira al-waridata bi dhikri Allahi ta'ala fi s-samaa, كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. Ce qui signifie il n'y a pas de divergence chez la totalité des musulmans, donc c'est chez la totalité des savants de l'islam, donc normalement c'est ça, donc des musulmans, voilà, que ce soit leurs savants spécialistes de jurisprudence, des fondements de la religion, de la rhétorique ou des gens du commun, que les textes du Coran et du Hadith où il est cité Allah fis sama ne sont pas pris dans le sens apparent, mais ils sont interprétés par ce qui est digne de Allah selon tous. Voilà, ça résume tout ça. Il dit, donc, كَقَوْلِهِ تَعَالَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ, dit comme la parole أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ, ici, مَنْ فِي السَّمَاءِ, ils ont dit les savants, c'est-à-dire les anges qui sont dans le ciel, Dieu les envoie pour punir certains peuples. Et certains, ils expliquent même fait sa main par celui qui a la divinité dans les cieux. Comme dans le verset, wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. C'est-à-dire celui qui est le Dieu des cieux et de la terre, celui qui a la divinité dans les cieux et dans la terre. Il dit wa nah wa ka qawlihi ta'ala wa nahwihi ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. On ne prend pas le sens apparent, mais elles sont interprétées selon tous. Il dit, il n'y a pas de divergence chez les savants de l'islam, que ce soit les spécialistes de la jurisprudence, des fondements de la religion, de la rhétorique, enfin des débats en fait, nuzzarihim, ceux qui font les débats, ou muqallid, les communs des musulmans. Al-zawahir al-warida, c'est-à-dire les textes apparents où il est cité Allah fait sa main, elles sont interprétées selon l'unanimité. Donc voilà en fait, il est là en fait, il y a le scan Sahih Muslim bisharh l'imam Nawawi et la parole qu'on a vu tout à l'heure, elle est là en fait dans ce livre là donc voilà, page 24. Donc elle est là. Il a dit هذا حديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيه عن سمات المخلوقات والثاني تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء. Il est celui pour qui, quand on fait les invocations, on se dirige vers le ciel. كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة. Donc ça veut dire que Dieu il est circonscrit dans le ciel ou dans la, tout comme il n'est pas circonscrit dans la Kaaba. بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين. Parce que le ciel dit c'est la direction de ceux qui invoquent. كما أن الكعبة قبلة المصلين. Tout comme la Kaaba et la Qibla de ceux qui font la prière. أو هي من عبادة الأوثان العابدين الأوثان التي بين أيديهم. فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. Voilà, donc elle est là avec la parole du Qadi Iyad. قال القاضي عياض, donc c'est ce qu'on a cité. Voilà, page 24 de cette édition. Donc vous voyez, elle scanne. Il est là. Alors, information utile. Et il y a beaucoup de paroles de aussi dans le site islam sunnite.net et sunnisme.wordpress.com. Donc, alors, information utile, l'imam, le Hafez Abu Zakaria et Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi est un savant de référence. Il est né en 631. Il est décédé en 676. Vous voyez, une quarantaine d'années, il avait. Alors, il est connu dans tout le pays musulman. Il a une quarantaine d'années. Donc, il a vécu une quarantaine d'années. Rahimahullah, c'est-à-dire, il y a plus de 750 ans, il est du madhab école de jurisprudence de l'imam Ash-Shafi. Son sharh commentaire du Sahih Muslim est incontournable, très connu. Il a écrit plein de livres alors qu'il a une quarantaine d'années, c'est tout. Et donc, il était un ahl al-tarjih, c'est-à-dire, il y a des degrés, même dans la science, il y a des degrés. Il y a le mujtahid comme Shafi'i, c'est le plus haut niveau. Après, Ashab al-Wujuh, ceux qui donnent des règles, des fatwas à partir de ce que dit celui qui est le mujtahid. Niveau en dessous, c'est ce qu'on appelle Ahl al-Tarjih, là où il fait partie de cette catégorie. C'est-à-dire ceux qui vont faire prévaloir des avis, selon d'autres avis. Il y a plusieurs avis, puis ils vont faire prévaloir un autre. Il y a Naqala, ceux qui font rapportent les avis de l'école. Ils mémorisent beaucoup, ils rapportent. C'est un niveau plus bas. Et il y a le Muqallad qu'il a dit tout à l'heure, c'est le commun des musulmans. C'est nous le commun des musulmans. Donc c'est pas quelqu'un ça y est, il s'est improvisé enseignant sur internet, comme beaucoup là, très connus. Donc faire attention à ces gens-là. C'est des gens de l'égarement, il a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Les gens les prennent comme référence, ils répondent sans science et provoquent leur égarement, l'égarement des gens qui les suivent. Donc faire attention. La religion, c'est pas ah oui, j'aime bien donc un tel, c'est pas comme ça. C'est avec une chaîne de transmission, quelqu'un il a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète. Et bien sûr, comme il a dit l'imam Ali, il a dit laysa al-haqqu yu'rafu bil-rijal walakin ar-rijala yu'rafuna bil-haqq. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire, il faut qu'il dise des paroles conformes aux règles de l'islam. S'il se trompe, il faut pas le suivre. Donc ici, il explique l'imam Nawawi le hadith connu sous le nom de hadith al-Jariya, hadith de la femme esclave. Et il dit qu'au sujet de ce genre de hadith, c'est-à-dire les hadiths équivoques, mutashabih, il y a deux méthodologies correctes. Donc la première, croire en ce qui est révélé dans les textes sans rentrer dans les détails du sens, tout en exemptant Allah de toute ressemblance et caractéristique des créatures, c'est ce qu'on appelle interprétation globale. La seconde, interprétée selon un sens digne d'être attribué à Allah, qui est valable selon la langue arabe, c'est ce qu'on appelle interprétation détaillée. Ces deux voies qui sont toutes les deux correctes ont en commun de ne pas prendre le sens apparent et d'exempter Allah de toute ressemblance avec les créatures. Lors de son explication, il dit très bien que le hadith ne signifie pas que Allah est dans le ciel. Alors, il cite la parole de Al-Qadi Iyad. Donc, on voit bien que le Qadi Iyad rapporte l'unanimité sur le fait que la parole Allah fis sama n'est pas à prendre au sens apparent. Donc, le Qadi Iyad, Qadi, juge. Et les juges avant, c'était des savants, en fait. Abul Fadl Iyad ibn Musa ibn Iyad al-Yahsoubi, connu sous le nom de Al-Qadi Iyad, est un grand savant malikite. Il est né en 476 et il est décédé en 544 de l'Hégire, rahimahullah, c'est-à-dire il y a plus de 950 ans. Donc vous voyez, ça c'est l'héritage sunnite. Ici, il rapporte l'unanimité sur le fait que les versets du Coran et les hadiths où il est cité Allah fis sama ne doivent pas être pris selon le sens apparent, mais qu'ils doivent être interprétés parce qu'ils dignent de Allah. Le hadith de la femme esclave, hadith al-Jariya, dans lequel il est dit fis sama, et le verset Amintum man fis sama ne doivent donc pas être pris dans le sens apparent selon l'unanimité. Donc voilà pour l'explication de Hadith al-Jariya. Il y a une explication plus détaillée qu'on verra, donc parce que en fait la science du hadith c'est large, et les savants ils ont dit il y a des règles en fait. C'est pas oui, il y en a qui te dit oui, le prophète il a dit, il croit qu'il parle d'une manière, on dirait ils ont vu le prophète. Il y a une science du hadith, il y a des chaînes de transmission. Donc il y a des règles vraiment. Un savant du hadith, c'est pas un tel, il lit des livres tout seul ou il regarde sur internet un logiciel. Il y a une chaîne de transmission, il y a des détails d'analyse, il y a des règles d'analyse pour les savants. Parmi les règles simples, on l'a dit, si le hadith en sens apparent il contredit la raison, il est nécessairement interprété. S'il n'admet pas l'interprétation, il est forcément rejeté. C'est impossible qu'il y ait un hadith confirmé qui contredit la raison. Je donne un exemple. Si quelqu'un il te dit un hadith qui dit que Dieu a un fils, t'as pas besoin de chercher dans les milliers de hadiths. C'est sûr qu'il n'existe pas, ou c'est mensonger, parce que ça contredit la raison. Donc, j'espère que c'est clair déjà jusque-là pour tout le monde. Donc, voilà, c'est le troisième cours. Donc, c'est le troisième cours sur le sujet. Donc, et c'est l'occasion de voir, de comprendre le Coran imminent qui est le plus grand miracle. C'est le miracle permanent. Donc, c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de baraka dans le Coran et donc on a vu le hadith où le prophète alayhi salatu wa salam il dit wala antaghdwa ya abadhar la antaghdwa fatata'allam ayatan min kitabillahi khayrun laka min an tusalliya 100 rak'a wala antaghdwa fatata'allam baban min al-'ilmi khayrun laka min an tusalliya 1000 rak'a. Si tu vas et tu apprends un verset du Coran, tu auras plus de récompenses que si tu priais 100 raka'a, et si tu apprends un chapitre de la religion, tu auras plus de récompenses que si tu priais 1000 raka'a, c'est-à-dire des prières surrogatoires. Donc là, il y a beaucoup de récompenses si on met la bonne attention. Donc on va voir l'interprétation détaillée pour Hadith al-Jariya. Donc ça, il y a des hadiths qu'on a vu l'autre fois. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba, qui signifie l'islam est apparu étranger et reviendra étranger comme il a commencé. Alors il est bonne nouvelle aux étrangers. On lui a demandé qui sont les étrangers au messager de Allah. Il a dit Alladhina yuslihuna min sunnati ma afsada an-nas, ce qui signifie ceux qui corrigeront ce qui a été corrompu dans la voie que j'ai tracée. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. On est arrivé, il y a les gens en masse, ils propagent les choses erronées, et il y a des gens, alhamdoulilah, ils ont appris avec chaîne de transmission, parce que le prophète, il a fait un doua que sa communauté ne s'égare pas dans sa totalité, et il y a des gens, alhamdoulilah, à qui Dieu a facilité, ils vont expliquer et corriger les choses que les gens ils ont corrompues de la voie du prophète. Or la sunna du prophète est la loi que le prophète a transmise, c'est-à-dire la croyance et les jugements de la loi révélée. Il y a dans ce hadith la bonne nouvelle pour celui qui s'attachera à notre époque où la corruption s'est répandue dans la communauté à la sunna du prophète, c'est-à-dire à sa loi révélée. Donc, on l'a vu, Allah Ta'ala dit, laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire, qui signifie, rien n'est tel que lui. C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures, d'aucune façon que ce soit. Il n'a donc pas besoin d'un endroit dans lequel se trouver, ni d'une direction dans laquelle il serait localisé. Donc, on a vu la parole de Sayyidina Ali. Et donc, alors là, détail, voilà, voilà les détails sur le hadith al-Jariya qu'on voulait faire. Déjà, on revient au verset Laysa kamithlihi shay. Quant à la preuve, là on verra une règle en arabe, de la règle dans la rhétorique. Donc la preuve de cet attribut selon, donc Dieu ne change pas. La preuve de cet attribut selon la raison est que s'il avait une quelconque ressemblance avec ses créatures, c'est-à-dire l'exemption de Allah de toute ressemblance avec ce dont l'existence a un début, signifie qu'il n'a pas de ressemblance avec les créatures. Cet attribut de Allah fait partie des attributs qui indiquent l'exemption de Allah de ce qui n'est pas digne de lui. Donc la preuve de cet attribut selon la raison est que s'il avait une quelconque ressemblance avec l'une de ses créatures, le changement et l'évolution qui sont possibles au sujet des créatures seraient possibles à son sujet. Si cela était possible à son sujet, il aurait besoin de qui le ferait changer. Et celui qui a besoin d'autrui n'a pas la divinité. Il est donc établi que Allah n'a de ressemblance avec aucune chose. Quant à la preuve par les textes de l'exemption de Allah de toute similitude avec les créatures, il y a sa parole Ta'ala, Laysa kamithlihi shay, qui signifie rien n'est tel que lui. C'est la preuve du Coran la plus explicite à ce sujet. En effet, nous comprenons de ce verset l'exemption absolue, car Allah tabaraka wa ta'ala a cité le terme shay, qui est ici sous forme indéterminée. Shay, il n'y a pas de alif, lam. L'article alif lam en arabe, c'est pour le déterminer. Mais ici, c'est sous forme indéterminée, dans un contexte de négation. Ici, la forme indéterminée est utilisée dans un contexte de négation. Cela signifie la généralité dans la langue arabe. Laysa kamithlihi shay. Donc, c'est une règle en arabe. Quand il y a forme indéterminée avec contexte de négation, c'est pour la généralité. Comme on dit, lam u'tika malan. Je te n'ai pas donné d'argent. Ça veut dire rien. Mais quand on dit, lam u'tika malan, je te n'ai pas donné l'argent. C'est-à-dire, je t'ai pas donné un argent précis, mais il se peut que je t'en ai donné un autre. Mais quand c'est indéterminé, c'est pour la généralité. La forme indéterminée dans un contexte de négation, c'est pour la généralité. Parce que le Coran, c'est vraiment le plus haut niveau de la rhétorique. Chaque construction, il y a un sens. Donc ici, par cette phrase, Allah tabaraka wa ta'ala nie à son sujet la ressemblance avec les corps et les caractéristiques des corps. C'est quoi le monde? Ce sont des corps et des caractéristiques des corps. Tout comme il n'a pas de ressemblance tabaraka wa ta'ala avec les corps, quand une âme, les humains, les djinns, les anges et les animaux, il n'a pas non plus de ressemblance avec les corps célestes ou terrestres. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas restreint la négation de la ressemblance à un genre particulier des créatures. La négation de la ressemblance de Allah englobe son exemption de l'endroit et de la direction, du volume et du comment. Le corps est concerné par le volume, la surface et les limites. Allah Ta'ala n'est pas un être limité, possédant une quantité et une étendue, petite ou grande. Donc c'est quoi les créatures, corps, qui soient palpables ou impalpables, et les caractéristiques, le mouvement, l'immobilité, tout ça. Et ça, c'est créé par Dieu, bien sûr. Notre pensée, nos idées, notre mouvement, notre sentiment, notre volonté, tout est créé par Dieu. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. C'est Dieu qui maintient le monde en existence. chaque instant est créé par Dieu. Donc voilà les détails sur Hadith al-Jariya, donc qui est important. Déjà, on voit comment les savants ils disent on peut pas prendre le sens apparent, mais avec cela, donc il y a des détails aussi qui font que cette version rapportée n'est pas une version sûre, parce que voilà les règles. Donc il y a un hadith mutawatir, hadith rapporté par un grand nombre de compagnons, témoins auditifs ou oculaires, un grand nombre de rapporteurs à chaque génération. C'est le plus haut niveau de la nouvelle. Le plus haut niveau de la nouvelle, c'est le mutawatir, l'information notoire qu'on peut appeler. Donc mutawatir, c'est rapporté par un grand nombre dès le début. Ils ont vu, ils ont entendu. Et à chaque génération, à chaque étape, c'était un grand nombre. Donc, il y a un hadith très fort qui a été rapporté par 15 ou 16 compagnons. Dans ce hadith, mutawat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah » jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et que je suis le messager de Allah. Donc ce hadith signifie donc qu'on ne juge quelqu'un musulman que sur sa prononciation des deux témoignages. Donc on a vu, la seule condition pour être musulman, c'est d'attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Muhammad est le messager de Dieu, dans n'importe quelle langue. Donc on a vu, on n'est pas permis de retarder quelqu'un qui veut se convertir. On n'est pas, attends, il faut te doucher, il faut te circoncire. Et même Nawawi, dans un autre livre, parce qu'il en a plein, il dit que si quelqu'un il veut se convertir et que même le prêcheur il lui dit attends, celui qui fait la prêche il lui dit attends, il revient plus tard, il devient mécréant. Retarder quelqu'un qui veut se convertir, c'est un blasphème. Ça veut dire c'est approuver la mécréance, comme si on lui dit attends, reste encore mécréant. Donc quelqu'un qui veut se convertir, on lui dit d'attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est son messager. Donc c'est comme ça qu'il devient musulman. Donc là, c'est connu chez les musulmans, pour quelqu'un qu'on juge musulman, il faut qu'il dise les deux témoignages. Donc alors, pourquoi ils ont dit c'est réfuté quand même? Donc le hadith al-Jariya, alors il y en a, ils l'ont réfuté quand même, les spécialistes. On dit, il y a des savants qu'on dit muhaqqiqoun. C'est le... Ils ont un très haut niveau qu'on appelle les savants authentificateurs. Vraiment, ils regardent minutieusement les détails. Tellement ils sont minutieux, donc ils vont pas rater des sujets comme ça. Ils vont dire, attends. Oui, on l'interprète, le hadith al-Jariya. Si c'était confirmé, il serait interprété nécessairement, comme on l'a vu dans le détail. Mais dire quand même, on va pousser plus loin, parce que c'est des savants minutieux, ils vont dire, attendez, il y a des hadiths très forts qui montrent que, comment on considère quelqu'un musulman? C'est pas par le fait qu'il dit « fais sa main », parce que même les non-musulmans, ils disent ça. C'est par, et qu'il dit, le fait qu'il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Il y a une version de ce même hadith, où le prophète, il lui dit à cette femme-là, témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah? Atashadina Allah ilaha illallah. Atashadina anni rasulullah. Donc c'est cette version qui prévaut. Parce que il y a ce hadith-là, connu dans la communauté, que pour juger quelqu'un musulman, il faut qu'il dise les deux témoignages. Alors le hadith al-Jariya, dans ses versions rapportées par muslim, comporte le sens que le prophète se serait contenté de la parole fils sa main de cette femme pour la juger musulmane. Ce qui contredit le hadith plus fort cité précédemment. Le maître de cette femme l'avait effectivement amenée pour que le prophète vérifie qu'elle était croyante. Dans ce hadith, le prophète aurait demandé à la femme « Aïna Allah ». Elle aurait répondu « Fils sa main ». Puis il lui aurait demandé « Man ana, qui suis-je ? » Elle aurait répondu « Le messager de Allah ». Il aurait alors dit à son maître, ce qui signifie « libère-la car elle est croyante ». De plus, la version rapportée par Muslim ne viendrait que d'un seul compagnon. Donc c'est ça la science du hadith. C'est pas, je cherche sur Internet, les pages de Google, et j'y crois, je plonge dedans. C'est pas comme ça la religion. C'est une grande science. C'est comme ça que ça a été protégé de gens de confiance, des gens minutieux, scrupuleux. Donc, vous voyez, il donne des preuves. Il dit pas, je suis gentil, suivez-moi, je vous donne de l'argent, ou je suis le fils d'un tel. Non. Vous voyez, ça c'est les détails qu'ils disent, eux, ces gens-là. C'est pas des recherches ou des recherches personnelles ici, là. C'est ce qu'on dit, ces savants-là, spécialistes. Donc, il viendrait que d'un seul compagnon. Donc, en effet, le hadith de Al-Jariya donne l'illusion qu'il suffirait que quelqu'un dise Allah fis sama pour être jugé croyant, alors que ceci est contraire à la vérité. On sait bien, chez les musulmans, que comment on juge quelqu'un musulman, il dit shahadatayn, les deux témoignages. An-Nawawi, Ar-Razi et d'autres qui ont commenté le livre de Muslim n'ont pas pris ce hadith selon le sens apparent. Bien sûr, ceux qui ont cité ce hadith, comme on l'a vu, Nawawi, Ar-Razi aussi, mais ils n'ont pas pris le sens apparent quand même. Mais ils ont dit que ils ont dit Aïna Allah vient dans le sens de l'interrogation sur la glorification et l'imminence de Allah, et non pas dans le sens de l'interrogation sur la localisation dans l'espace. En effet, on dit dans la langue arabe Aïna Fulan, Aïna Antel, dans le sens de quel degré a-t-il? Quelle est l'élévation de son mérite? D'autre part, lorsqu'on dit Fissama, cela peut signifier dans la langue arabe la supériorité du mérite. C'est de cette manière que les deux savants du hadith, An-Nawawi et Ar-Razi, l'ont interprété. Ils ne l'ont pas pris selon le sens apparent, comme l'ont fait les assimilationnistes. Le hadith a effectivement été rapporté par l'imam Muslim tel que nous l'avons cité, mais il a aussi été rapporté dans les termes qui est ton Seigneur, auquel aurait répondu Allah, de même que par les termes Aïn Allah, après lequel l'aurait pointé le doigt vers le ciel. Il a été enfin rapporté dans les termes Atashhadina Allah ilaha illallah, ce qui signifie témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah, auquel elle a répondu oui. Il lui a dit Atashhadina anni Rasulullah, témoignes-tu que je suis le messager de Allah? Elle a répondu oui. Cette dernière version a été rapportée par l'imam Malik dans son livre Al-Muwatta. Or, l'imam Malik est plus fort dans la science du hadith que l'imam Muslim, car sa chaîne de transmission est plus courte. Il est plus ancien, lui. En effet, il n'y a entre lui et le prophète que trois ou quatre rapporteurs du hadith. De plus, les versions comportant l'expression Aïn Allah contredisent les fondements de la loi, Al-Usul. En effet, cela fait partie des fondements de la loi révélée, Sharia, de ne pas juger quelqu'un musulman sur sa parole Allah fis sama. Cette parole est en effet commune aux différents courants des gens du livre, ainsi qu'à d'autres groupes. La seule chose reconnue dans la loi révélée par Allah, c'est ce qui a été rapporté dans le hadith mutawatir que nous avons cité précédemment, c'est-à-dire qu'on ne juge quelqu'un musulman que sur sa prononciation des deux témoignages. Voilà. Donc voilà le détail. Même ceux qui l'ont confirmé, cette version-là, ils l'ont interprétée comme on l'a vu, Nawawi. Mais les savants authentificateurs, ils ont poussé le détail pour dire, voilà, il y a un hadith qui montre que moi, on juge quelqu'un musulman. Et ce hadith-là, cette version-là, elle aurait été rapportée une seule voix. Donc c'est vraiment une science, hadith. C'est pas un logiciel qu'on regarde dedans. Parce que beaucoup, ils font ça, ils regardent sur Internet, ils viennent discuter avec toi. Donc de même, dans le verset Amin tum man fis sama, donc on va finir avec cela. Man fis sama désigne les anges. Et que le mot man, qui signifie dans la langue arabe aussi bien celui qui ou ceux qui, donc man, c'est un. Peut faire être un pronom qui se réfère au singulier ou au pluriel. Donc ce man ici ne désigne pas Allah, cette ayah n'est donc en rien une preuve que Allah serait dans le ciel. En effet, si les anges recevaient de la part de Allah l'ordre de faire ensevelir par la terre ceux qui vouent l'adoration autre que Allah, ils le feraient. Donc on l'a expliqué tout à l'heure, ça. Voilà, donc, de même pour le verset suivant qui concerne les vents puissants. Si Allah leur ordonnait de le faire, les anges pousseraient les vents sur les non-croyants qui seraient ainsi exterminés. Ces versets sont interprétés conformément à ce qui a été rapporté dans le hadith sahih. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, ceux qui sont dans les cieux seront alors miséricordieux avec vous. Ce hadith a également été rapporté dans les termes suivants. Irhamu ahl al-ardi irhamukum ahl as-sama. Donc il y a deux versions de ce hadith. Dans la deuxième version, il est cité ahl as-sama explicitement. Les gens des cieux. Et les gens du ciel, ça ne désigne pas Dieu. Qui signifie, soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, les gens du ciel seraient alors miséricordieux avec vous. Donc, grand savant Zayn al-Din al-Iraqi, il a dit, on interprète une version par une autre version. Cette version explique ce qui est visé par l'expression Mam fis sama dans la première version du hadith et dans la ayah. Ce sont les anges, car ce sont eux les habitants des cieux. En effet, on ne qualifie pas Allah par l'expression « Ahlus Sama », les gens du ciel. Cette expression concerne bien les anges, car ce sont eux les gens des cieux. La règle est que tout verset non explicite qui serait pris selon le sens apparent impliquerait des contradictions dans le Coran, alors que le Coran en est absolument exempt. Donc, il faut interpréter, sinon ça donnerait plein de contradictions. Si on prend tout selon le sens apparent, il serait au ciel, sur terre, dans l'Orient, dans l'Occident, en Palestine, parce qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois, qu'il y a des versets qui, si on prend au sens apparent, il serait à l'Orient, à l'Occident, ou en Palestine, parce qu'on verra le verset. وَقَالَ إِنِّي ذَهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. Donc ça veut dire, et ça, c'est montre que ces gens-là, qui disent on prend tout au sens apparent, ils vont tomber nécessairement dans la contradiction. Donc, et on l'a vu l'autre fois, le hadith sahih, si on le prend dans le sens apparent, ça donnerait un sens que Dieu serait malade. Et ça, c'est impossible. Donc il y a des règles dans le Coran, dans le hadith. Et on a dit c'est une épreuve de la part de Dieu, parce que on l'a vu, le prophète il dit al-Qur'an imma hujjatun laka am alayka. Le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Dieu guide qui veut et guide qui veut par le Coran. Yahdi bihi kathira wa yudhillu bihi kathira. Donc on verra inshallah la suite la prochaine fois, donc c'est très intéressant. Et c'est important de réviser ces cours-là, de les maîtriser. Et la religion, c'est par transmission orale. Il faut pas suivre Shaitan. Il va te suggérer, soi-disant, tiens, je veux m'informer sur la religion. Je regarde sur YouTube. Non. Comment réparer ta voiture? Encore, tu peux regarder les choses mondaines. Donc, où tu regardes un reportage animalier, tu vas dire Subhanallah. Donc ça, c'est mieux pour toi que de regarder des gens inconnus qui peuvent dire des choses vraies ou fausses. Les choses mondaines, tu peux regarder, tu peux t'informer sur certains sujets, et encore, c'est pas forcément tout ce qui est dit vrai. Mais la religion, c'est très important. Il s'agit ou du paradis ou de l'enfer. Les choses mondaines, voilà, tu as regardé une recette de gâteau, comment faire un tel plat, et bon, t'as pas réussi. T'as pas une grande perte. Tu recommences. Mais tu suis quelqu'un qui va t'égarer, et petit à petit, tu vas te rattacher passionnellement à lui. Que tu sois, va suivre dans l'égarement, c'est ce qui se passe maintenant. Les gens, ils sont attachés tellement à un tel, même s'ils s'égarent, ils le suivent. tellement ils sont devenus attachés. Donc c'est important d'apprendre de gens de confiance par chaîne de transmission. Il faut pas laisser les mauvaises suggestions du shaitan. C'est Allah dit dans le Coran, fattakhidhuhu adou, prenez-le pour ennemi. Chacun il a un qarin, quelqu'un qui lui va suggérer des mauvaises, un djinn qui va te suggérer des mauvaises suggestions. Donc il faut pas laisser, il va jouer sur toi. Un grand savant qui a répliqué beaucoup, Mushabbiha d'ailleurs, Ibn al-Jawzi, ceux qui sait, il a répliqué à Mushabbiha qui disent qui suivent la croyance de Pharaon, parce que Pharaon il croit que Dieu habite le ciel. Et Dieu nous dit que celui qui a cette croyance, il est égaré. C'est-à-dire que Dieu nous apprend dans le Coran que Pharaon, il est égaré suite à ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il le réplique, Ibn al-Jawzi. Parce que Pharaon, il dit, je veux, il dit à son ministre, construis-moi une tour pour arriver au ciel pour voir le Dieu de Moussa. C'est Pharaon qui dit ça, c'est pas Moussa. Moussa, il a jamais dit ça. Et ils disent, tiens, voilà la preuve, Pharaon, il croit que Dieu habite le ciel. Et Ibn al-Jawzi, il leur répond, il réplique à ces gens-là, il a un livre spécialement pour ça, en fait, sur ces sujets-là qu'on a cités. Tanzih, l'exemption de Dieu de toute ressemblance aux créatures. Il dit, donc, que dans la suite du verset, qu'il est cité, qu'il est égaré. Que Pharaon est égaré, c'est-à-dire il a dit celui qui a cette croyance, il est égaré. Donc lui, il a un livre qui s'appelle Talbis Iblis, les ruses de Iblis. Pour chacun, il a des ruses. Il voit, toi, tu t'intéresses à la religion, ben tiens, on va te mettre dans la fausse religion, les fausses informations. Allez, regarde les vidéos de Abu Antel ou Abu Antel ou Antel. Les gens connus là qui ont plein de des milliers de vues. La plupart, c'est des ignorants. Ils connaissent pas la religion. Ils mélangent le vrai et du faux. Ils donnent leur avis. C'est ça qui est dangereux. Il va dire plein de choses vraies, mais dans les choses vraies, il y a des grosses erreurs graves qui nuisent à la croyance. Donc, faire attention. La religion, ça prend de gens de confiance. Donc, avec chaîne de transmission. La personne qui se trompe sur les règles de la croyance, elle n'a pas d'excuse. Donc, quiconque attribue à Dieu la forme, la quantité et la localisation, il doit délaisser cette mauvaise croyance et revenir à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu. Donc, voilà, on est arrivé à la fin. Révisez bien. J'espère que c'est clair. Il y aura l'audio, inshallah. Vous pouvez réviser dedans, dans l'inscription, après que je la poste. Et sur l'article aussi, inshallah. Donc je mettrai, s'il y a une question, vous envoyez sur WhatsApp, Telegram ou sur le mail. Donc partagez. Et les audios arrivent aussi dans l'application, dans l'ordre en fait. Ils arrivent dans l'application, ce qui permet de réviser. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashraf al-mursalin. Alors je regarde les commentaires là. Assalamu alaikum, wa alaikum salam tout le monde. Barakallahu fikum. Pouvez-vous répéter la version rapportée par Malik? Non, on a dit la version. On n'a pas dit que c'est qui l'a rapportée. On a dit il y a une version dans laquelle il dit elle aurait montré le doigt, le ciel du doigt. Là aussi, c'est interprété par les savants dans le sens de l'imminence de Dieu, dans ce sens-là aussi, dans le sens de l'imminence. Mais on a dit la version rapportée par Malik, c'est dans le Muwatta, c'était témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Dieu et témoignes-tu que Muhammad est et témoignes-tu que je suis le messager de Dieu. Donc c'est ça. Donc c'est ça ce qui a été dit dans l'article, c'est marqué. C'est donc mais il n'est pas cité qu'il l'aurait rapporté cette version. Mais il y a cette version-là. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs versions en fait. Mais dans ces versions-là, celle qui est la plus conforme au fondement, c'est celle ou dans laquelle témoignes-tu qu'il n'est de Dieu qu'Allah, témoignes-tu que je suis le messager d'Allah. Celle-là, elle est conforme au fondement connu de tous les musulmans. Comment juger quelqu'un musulman? Par les deux témoignages. Comment les gens se convertissent? Par les deux témoignages. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Donc voilà, s'il y a besoin de détails, de toute façon, voilà, comme j'ai dit, les moyens de contact. Donc j'espère que c'est clair. Barakallahu fikum. Révisez bien. Et la prochaine fois, on donnera d'autres détails, inshallah. Donc réviser aussi. Donc j'incite aussi à apprendre à réciter la Fatiha pour ceux qui n'ont pas appris, pour la prière, parce que la prière c'est la meilleure des choses après la foi. Il est important de ne pas perdre son temps. La Fatiha c'est la seule sourate obligatoire. Donc on viendra en fait, mais comme les sujets de la croyance sont prioritaires, on a parlé des sujets de la croyance, mais apprenez à réciter donc entre-temps, donc la personne a là toute la semaine de se faire corriger des gens de confiance qui vous corrigent la récitation de la Fatiha pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait pour faire la prière correctement. Parce qu'on viendra, Inch'Allah, sur le sujet de la prière aussi. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم